France Culture.
Des scènes de massacre dans l'ouest de la Syrie. Plus de 300 civils alaouites exécutés en l'espace de 48 heures dans le bastion du clan Assad. Ils y tiennent à leur autoroute. Les défenseurs de l'A69 manifestent ce matin entre Toulouse et Castres alors que la justice a suspendu le chantier il y a tout juste une semaine. Et si mieux payer les femmes pouvaient combler le déficit des retraites? En cette journée du 8 mars, les syndicats avancent cette option. Décryptage dans ce journal. Enfin, alors que le ministère de la Culture présente son plan de lutte contre les violences sexistes et sexuelles, quelles avancées dans le monde du cinéma? Leslie Thomas, secrétaire générale du CNC, est notre invitée dans une dizaine de minutes. C'est la séquence la plus meurtrière en Syrie depuis la chute du régime de Bachar al-Assad. Plus de 340 civils alaouites ont été exécutés ces deux derniers jours par les forces de sécurité du nouveau régime. Le bilan ne cesse d'augmenter. L'Observatoire syrien des droits de l'homme parle de massacres, de combats, de pillages dans la région de Latakia, région d'origine du clan Assad. Hier, le président du régime de transition, Ahmed al-Sharaa, a appelé les rebelles alaouites à se rendre avant, je cite, qu'il ne soit trop tard. Arthur Saradin est notre correspondant à Damas.
Tout a commencé ce jeudi. Des miliciens proches de Bachar el-Assad conduisent des opérations coordonnées depuis leur bastion de la côte syrienne contre les nouvelles forces de sécurité du pays. Plusieurs dizaines de morts plus tard, les nouvelles autorités tentent de contenir la situation, encerclent les positions des insurgés et font plusieurs prisonniers parmi ces anciens du régime. Mais très vite, hier après-midi, des vidéos d'une extrême violence commencent à agiter les réseaux sociaux syriens. On y voit des insurgés exécutés sans procès et des dizaines de civils appartenant à la minorité alaouite abattus sommairement en pleine rue. La situation est donc exsangue. Le président par intérim, Ahmed al-Sharaa, forcé de réagir. Dans un discours télévisé prononcé hier, il appelle au calme et promet de juger ceux qui se sont rendus coupables d'exactions ou de crimes de guerre contre les civils. En Syrie, la résurgence de la haine sectaire installée de longue date par l'ancien régime menace le pays, toujours instable et morcelé. De nombreux membres de l'opposition à Bachar el-Assad appellent à la justice face aux crimes commis hier contre les civils, sans quoi la Syrie pourrait s'enfoncer dans un nouveau cercle du chaos.
Arthur Saradin à Damas pour France Culture. Au moins 14 morts cette nuit dans l'est de l'Ukraine. Des bombes ont frappé la région de Donetsk. Poutine montre qu'il n'a aucun intérêt pour la paix, estime ce midi la chef de la diplomatie européenne. Par ailleurs, le ministère de la Défense russe affirme avoir repris 3 villages dans la région de Koursk. Petit à petit, Moscou récupère les territoires occupés depuis l'été par l'armée ukrainienne. Et puis, en cette journée de lutte pour le droit des femmes, les autorités russes ont décidé de faire un cadeau aux mères de soldats tués en Ukraine. Un hachoir à viande en russe. L'expression désigne les vagues de fantassins envoyées sans compter sur la ligne de front. En Birmanie, des élections auront lieu en décembre ou en janvier prochain, annonce du chef de la junte ce matin. Ce sont les premières élections organisées depuis le coup d'État de 2021. Entre-temps, les affrontements entre la junte et les groupes rebelles ont fait plus de 6 000 morts, 3,5 millions de déplacés selon les Nations Unies. Quant à l'ancienne chef du gouvernement et prix Nobel de la paix, Aung San Suu Kyi, elle est toujours placée en détention depuis juillet 2022. Enfin, le président sud-coréen est sorti ce matin du centre de détention où il était incarcéré depuis janvier, depuis sa tentative d'imposer la loi martiale dans le pays. Le président reste suspendu de ses fonctions et poursuivi pour insurrection. Sa destitution pourrait être prononcée dans les prochains jours par la Cour constitutionnelle. En France, c'est un chantier en suspens qui mobilise encore ce matin, celui de l'A69, cette autoroute d'une cinquantaine de kilomètres entre Toulouse et Castres. Les travaux ont été stoppés net la semaine dernière par le tribunal administratif, après des mois de lutte des opposants qui dénonçaient un projet absurde, tant sur le plan environnemental que financier. Aujourd'hui, c'est au tour des pros A69 de se mobiliser, car le ministère des Transports a fait appel de cette décision avec le soutien des élus et des promoteurs qui veulent mener le chantier à terme. Marie Maison, vous avez suivi leur rassemblement à Castres, ils étaient environ 3000.
Oui, il y a de tous les profils chez les manifestants. Parmi eux, des employés de l'entreprise Pierre Fabre, premier employeur du Tarn et partisan du projet. À la manifestation, j'ai rencontré Sabine. Elle travaille pour le géant pharmaceutique. Elle est venue parce qu'elle a peur de perdre son travail. Il y a aussi dans la foule pas mal d'habitants de Mazamet, la ville voisine. J'ai pu échanger avec Jérôme, le chef d'une petite entreprise de menuiserie. Lui, il attendait l'autoroute avec impatience. Pour lui, les temps de trajet entre Mazamet et Toulouse sont trop longs et ça pose des problèmes à ses fournisseurs. Et puis l'autre argument, c'est que ses deux filles étudient à Toulouse, alors dans le cortège, il y a aussi des retraités. Ceux que j'ai rencontrés regrettent surtout de vivre au milieu d'un chantier à l'arrêt. Grosse mobilisation, vous l'aurez compris, donc la plupart de ces personnes n'avaient jamais manifesté. Près de 300 élus sont aussi présents, parmi eux les maires de Castres et d'Albi, mais aussi le président du département du Tarn. Tous attendent beaucoup du sursis à exécution déposé dans les prochains jours par le ministre des Transports, avec ce slogan « La 69, on finit ».
Merci Marie Maison, ici Occitanie pour France Culture. Ailleurs en France, ça n'est pas l'autoroute qui mobilise aujourd'hui, mais la lutte pour les droits des femmes. En cette journée du 8 mars, des rassemblements sont organisés un peu partout sur le territoire à l'appel des différents syndicats. On patine, on avance extrêmement lentement sur la question des inégalités salariales, s'agace Marie-Lise Léon ce matin sur France Inter, la secrétaire générale de la CFDT, qui appelle à un engagement beaucoup plus fort des employeurs. Bonjour Eva Kling.
Bonjour.
Les femmes gagnent en moyenne 23,5% de moins que les hommes. Selon la CFDT, l'égalité salariale, c'est le combat des syndicats en cette journée du 8 mars. Et en plein débat sur la réforme des retraites, la CGT, cette fois, avance une idée qui pourrait faire d'une pierre deux coups, augmenter le salaire des femmes pour combler le déficit des retraites.
C'est mécanique. Si les femmes sont mieux payées, elles paieront plus de cotisations de retraite. Une étude de la Caisse nationale d'assurance vieillesse, la CNAV, a calculé l'impact d'une égalité salariale entre hommes et femmes. Et selon ces calculs, l'égalité va rapporter 5,5 milliards d'euros aux caisses. Un chiffre basé sur des données de 2011, mais qui, selon certains économistes, reste plausible aujourd'hui. Ces 5,5 milliards d'euros combleraient une grande partie du déficit actuel, qui est de 6,6 milliards. La CGT utilise donc cet argument pour militer pour l'égalité salariale, mais aussi pour demander l'abrogation de la réforme des retraites et du départ à 64 ans.
Alors, des bénéfices sur le court terme, Eva, mais à long terme, qu'est-ce que ça donne ?
Tout aussi mécaniquement, une fois à la retraite, les femmes mieux payées vont percevoir une pension plus élevée qu'aujourd'hui. Comme la population vieillit et qu'en France, le nombre de naissances baisse, rien ne dit que d'ici 30 ans, les actifs seront assez nombreux pour payer ces retraites. Sans compter que l'espérance de vie des femmes est plus grande, donc leur retraite plus longue, alors forcément, le déficit risque de se creuser. Et puis, l'étude de la CNAV a des limites. Elle ne couvre pas la question du temps partiel. L'étude part de l'hypothèse que toutes les femmes sont à temps plein, alors que selon l'INSEE, un quart d'entre elles sont à temps partiel. Et reste la question de comment appliquer l'égalité salariale. Et ce n'est pas si simple, souligne Henri Sterdignac, économiste de l'OFCE, spécialiste de la retraite.
Le fait de promouvoir des femmes plutôt que des hommes, naturellement, ça irait vers l'égalité femmes-hommes, mais ça n'augmenterait pas la masse salariale, donc les cotisations, puisque ce serait simplement des femmes qui remplaceraient des hommes. Par contre, effectivement, si on réussissait à faire passer les femmes qui sont à temps partiel à temps complet, ce serait un effet favorable, mais qui demande une réorganisation dans les entreprises. Les femmes sont dans des métiers dits féminins, en fait, le service à la personne, qui sont dévalorisés. Donc, il faudrait revaloriser ces services à la personne. Augmenter les salaires dans les services à la personne, ça peserait sur les coûts de ces services au détriment des ménages, au détriment des comptes publics. Et donc, c'est pas si simple.
L'égalité de salaire est mal perçue pour la plupart des entreprises qui estiment qu'augmenter les salaires va leur faire perdre en compétitivité. Merci Eva Kling. Comment lutter efficacement contre les violences sexistes et sexuelles dans le monde de la culture ? Un nouveau plan vient d'être publié par la rue de Valois pour la période 2025-2027. Quelques nouveautés, mais surtout d'anciennes mesures renforcées, notamment la conditionnalité des aides culturelles qui est élargie par exemple au festival de cinéma. Pour en parler, nous recevons ce midi Leslie Thomas, la secrétaire générale du CNC. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Cette conditionnalité, elle existe déjà dans pas mal de cas. La mairie de Paris, notamment, s'est engagée début janvier à conditionner toutes les autorisations de tournage à la signature d'une charte contre les VSS. Est-ce que c'est le cas ?
Alors, pour ce qui est du CNC, le Centre National du Cinéma et de l'Image Animée, la conditionnalité des aides, elle existe depuis 2021. Et donc, il ne s'agit pas simplement de la mise en application d'une charte, c'est en l'occurrence les obligations légales qui sont fixées dans le cadre du Code du Travail et qui obligent les employeurs à mettre en œuvre des moyens renforcés pour prévenir et lutter contre les violences sexistes et sexuelles. Et en parallèle de du rappel de ces obligations légales, nous avons imposé aux mandataires sociaux, aux chefs d'entreprise des sociétés de production cinématographique, audiovisuelle, dans le secteur de l'animation et celui du jeu vidéo, une obligation de formation, justement, pour mieux les accompagner dans la mise en œuvre de ces obligations légales.
Et ça passe par quoi, concrètement, comme mesure, comme formation ?
Alors, la formation, c'est une formation qui rappelle, d'un point de vue du droit, qu'est-ce que c'est une violence sexiste et sexuelle, qu'est-ce que c'est qu'une agression sexiste et sexuelle, quelles sont les situations au travail qui mettent en danger les salariés. Mmh. Et c'est un rappel aussi de ce que les employeurs doivent faire en termes de prévention. Donc, ils doivent, par exemple, avoir un référent prévention contre les violences sexistes et sexuelles. Ils doivent donner aux salariés un certain nombre d'informations sur le recours possible à l'inspection du travail, à la médecine du travail, aux préventeurs santé-sécurité au travail. Ils doivent créer les conditions pour que travailler soit sécur.
Et est-ce que ça a des... On voit les conséquences une fois que cette charte est signée, une fois que la formation est faite. Bon, j'imagine que les VSS ne disparaissent pas d'un coup, mais on voit vraiment des effets.
C'est-à-dire que vous avez forcément, à partir du moment où vous avez un collectif de travail qui est compétent, qualifié, formé, vous avez forcément un recul des situations de violence sexiste et sexuelle. Vous avez même une forme de contrôle social de l'équipe qui dit au potentiel agresseur, non, ça, c'est pas possible, ça, c'est interdit, et ça, ce n'est pas autorisé. Et puis, vous avez aussi une libération de la parole des victimes qui sont confrontées à certaines situations inacceptables et illégales. Et donc, ce corpus, ce continuum de formation, de sensibilisation, d'accompagnement, contribue à faire réduire, pas dire disparaître, ça serait très présomptueux, mais en tout cas contribue à réduire les situations de violence sexiste et sexuelle,
vous
sur les tournages notamment.
Qu'on a avancé sur la question depuis Adèle Haenel, depuis Judith Godrèche, et il y a vraiment des progrès dans le monde du cinéma de ce point de vue-là ?
Ah ben, il y a énormément de progrès, puisque si on regarde juste le volume de personnes formées, aujourd'hui c'est 6500 producteurs du cinéma, de l'audiovisuel, l'animation, du jeu vidéo, qui ont bénéficié de cette formation à la prévention et la lutte contre les violences sexistes et sexuelles. On travaille avec l'AFDAS sur les formations obligatoires des équipes de tournage. Là, c'est 78 000 intermittents du spectacle qui vont être concernés pour les 3 ans qui viennent. Donc, on est vraiment dans des effets de masse et on est dans des effets où on espère que cette action de formation va contribuer à faire reculer profondément les violences sexistes et sexuelles. Mais en parallèle de ça, il y a aussi tout un corpus, toute une série d'outils qui sont mis à la disposition des victimes, que ce soit la cellule d'écoute portée par Audience, qui permet de faire un accompagnement psychologique et juridique, que ce soit les guides qui sont mis à la disposition des salariés, de l'inspection du travail, des employeurs, pour pouvoir accompagner ces situations et les faire reculer.
Ça, c'est des choses que vous mettez en place à partir de maintenant ou qui existent déjà et que vous renforcez ?
Ça existe déjà et ça va être renforcé. Donc, vous en parliez tout à l'heure. Pour ce qui est du secteur du cinéma, les mesures de renforcement, elles vont essentiellement porter sur un travail spécifique en direction des festivals, mais aussi sur un travail en direction des étudiants dans les écoles d'enseignement supérieur, puisque si on veut avoir des professionnels qui, à l'avenir, comprennent ce que c'est que la santé et la sécurité au travail et pourquoi il y a des situations à risque qui existent, notamment sur un tournage de cinéma, il est important qu'on s'attaque aussi à la partie préventive dans le cadre de la formation initiale des futurs professionnels.
Qu'est-ce qu'il y avait de particulier au domaine des festivals ? Ça n'existait pas avant ?
Il n'y a pas d'obligation de formation pour pouvoir toucher les aides publiques. C'est ça qui, aujourd'hui, n'est pas encore mis en œuvre et qui va faire l'objet d'une mise en œuvre telle que ça a été annoncé par la ministre hier.
Vous avez été auditionné en décembre, il me semble, par la commission d'enquête parlementaire sur les violences dans le secteur de la culture. Qu'est-ce que vous en attendez ?
Eh bien, déjà, on attend que le rapport que les parlementaires vont publier début avril, je crois que c'est le 9 avril qui a été annoncé comme date de publication, y permette de faire avancer, notamment du point de vue législatif, un certain nombre de chantiers. Je pense à la question des mineurs sur les tournages, je pense à l'obligation de contrôle par les inspections du travail sur les tournages, je pense à la formation initiale, où on pourrait aller un peu plus loin que ce qui existe aujourd'hui. Et puis après, bon, je ne suis pas à la place des parlementaires qui portent cette commission d'enquête, donc je ne sais pas exactement quelles vont être les annonces ou les recommandations ou les arbitrages qui seront faits, mais en tout cas, on voit bien qu'il y a, que ce soit sur la prévention, mais aussi sur l'accompagnement des victimes, il y a beaucoup de choses qui vont être portées.
Une commission d'enquête qui rendra effectivement ses conclusions dans un mois, le 9 avril prochain. Merci Leslie Thomas d'avoir
Merci
été l'invité de France Culture ce midi. Je rappelle que vous êtes secrétaire générale du Centre National du Cinéma. Un mot du temps pour ce samedi plutôt ensoleillé sur l'ensemble du territoire. grand soleil même dans le nord et l'est de Paris à Strasbourg. En revanche, quelques nuages, voire de la pluie, sont attendus dans le sud du côté des Pyrénées. Et il fait bon cet après-midi. Les températures sont comprises entre 16 et 21 degrés. Il fait 17 à Paris, Lille, Rennes, 18 à Lyon, 19 à Nantes et 21. Les maximales, c'est sur les plages de Biarritz.